Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse ce vendredi 3 avril 2009. Contrairement à nos habitudes, nous avons retenu pour vous deux thèmes au menu de l'émission de ce soir, à savoir Assemblée nationale et députés ne s'accordent pas sur la procédure du renouvellement des membres du bureau. Et dans notre second thème, nous parlerons de l'exploitation du pétrole à la frontière maritime entre la RDC et l'Angola. Le ministre congolais des hydrocarbures demande la révisitation et la redistribution de l'espace de production du pétrole dans cette région. Trois confrères sont avec moi dans ce studio pour en parler. Il s'agit de Herbert Tibanda, il est journaliste et directeur de programme à la chaîne de télé et radio Kasaï Horizon KHRT, station de Mbujimayi, une chaîne de télévision et radio privée émettant dans les deux Kasaï. Laurel Kankole, il est journaliste indépendant. Et Ambroise Mamba, journaliste présentateur de l'émission Table Ronde, une émission politique sur Congo Web Télévision, une chaîne de télévision privée émettant à Kinshasa. Comme d'habitude, commençons notre tribune de ce soir par la revue de presse pour voir comment les journaux parus à Kinshasa ont traité les deux thèmes cités si haut. Alain Hirung pour le journal de journaux.
Bonsoir. Premier thème de ce journal des journaux, le blocage constaté à l'Assemblée nationale au sujet du renouvellement des membres du bureau après la démission de son président Vital Kamerhe et les autres membres. Le palmarès à sa une parle des chaudes empoignades entre la majorité et l'opposition à la plénière de ce jeudi. Le potentiel quant à lui note, je cite, l'AMP en marge de la Constitution. Le spectacle auquel on assiste depuis plus de deux mois à la chambre basse du Parlement ressemble à un théâtre de chez nous. Pour sa part, le phare a affirme que c'est le blocage. Les députés divisés sur la procédure ont pris 48 heures de réflexion au sein des groupes et plateformes. La tempête des tropiques renchérit. L'AMP bloque l'organisation de l'élection. Pour la majorité, Kamerhe ne peut organiser le scrutin alors que l'opposition ne jure que par le respect du règlement d'ordre intérieur et de la Constitution qui confère ce pouvoir au bureau démissionnaire. Dans son éditorial, le quotidien L'Avenir s'interroge qui sera mangé le premier. Autre sujet de la semaine, c'est le vœu du ministre congolais des hydrocarbures de voir révisiter des carrés pétroliers et la redistribution de l'espace d'exploitation du pétrole entre la RDC et l'Angola. Selon le SAR, après Kaemba et Mbanzangungu, RDC-Angola, la frontière maritime pose aussi problème. Ce quotidien quinois poursuit en ces termes. À Kinshasa, les déclarations du ministre René Isekemanga ont reçu beaucoup de commentateurs congolais, jusque-là habitués à la langue de bois des officiels lorsqu'il s'agit des questions frontalières entre les deux pays et surtout de la gestion des réserves pétrolières situées dans la zone dite d'intérêt commun.
Merci Alain Hirung. Commençons par vous, Laurel Kankole. Vous êtes journaliste indépendant. Un petit commentaire à ça par rapport à cette revue des presse que vient de nous présenter Alain Hirung.
Oui, elle est bonne dans la mesure où avoir ramassé les grands thèmes, les grands sujets d'actualité du pays, l'exploitation pétrolière, le folklore au palais du peuple. Moi, ça me va.
Ambroise Mamba, un mot à placer par rapport à cette revue?
La revue est bonne, mais pas équilibrée par rapport aux deux faits d'actualité. On a beaucoup parlé de la situation de l'Assemblée nationale, mais un tout petit peu de la situation des hydrocarbures ou de la frontière commune entre la RDC et l'Angola.
Et selon vous, cela est dû à quoi? La presse n'était pas assez informée ou le sujet n'était pas assez intéressant?
J'imagine tout simplement que la presse est tellement intéressée par la situation de l'Assemblée nationale. C'est là qu'on discute même de la politique de ce pays.
Herbert Tibanda, vous intervenez à partir de Mbujimayi. Vous êtes journaliste et directeur de programme à la radio et télé Kasaï Horizon. C'est vrai que c'est la revue de presse de Kinshasa. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire par rapport à ce journal de journaux?
Oui, Thierry, bonjour. Et je suis heureux de retrouver une fois de plus les ondes de Radio Kati. Un commentaire justement. En fait, moi, je suis en train de revenir de Kinshasa. Je suis rentré chez moi samedi. Donc, j'ai suivi toutes les péripéties de ce dossier. J'étais encore à Kinshasa. Et bien évidemment, la revue de presse est tout à fait équilibrée. Je pense que c'est fait de manière professionnelle. C'est un peu ça, mon avis. Elle a pu ramasser les grands sujets de l'heure. Voilà.
Merci Herbert. Passons à notre premier thème de ce soir. Nous l'avons annoncé dans notre introduction. Assemblée nationale, les députés ne s'accordent pas sur la procédure de renouvellement des membres du bureau. Le bureau Caméré organisera ou pas l'élection pour le renouvellement du bureau. Les points de vue divergent au sein de l'Assemblée nationale. Certains députés nationaux soutiennent la mise en place d'une commission spéciale, tandis que d'autres estiment que plutôt le bureau démissionnaire à la tête duquel se trouve Vital Caméré qui doit s'en charger. Suivant ce reportage de Marie-Chantal Lomba pour en savoir un peu plus.
Une séance houleuse à l'Assemblée nationale. Pour certains députés, le bureau démissionnaire ne peut organiser l'élection pour son remplacement. Selon Jean Bouillou, député du groupe parlementaire PPRD, il y a un manque de confiance politique.
Ce qui est déterminant, c'est la confiance politique. La majorité estime que le bureau démissionnaire n'a plus sa confiance, même sur la question d'organiser son remplacement. La majorité a estimé qu'il vaut mieux confier cette tâche à d'autres personnes choisies dans la plénière et qui ne sont pas candidates.
Par contre, des députés nationaux membres de l'opposition et même certains de l'ANP jugent que le bureau qui assume les affaires courantes est capable d'organiser l'élection. Élisée Dimanja, députée du groupe parlementaire Coalition des démocrates congolais.
Puisque le président de l'Assemblée nationale n'est pas candidat à sa propre succession, qu'est-ce qu'ils sont en train de craindre? Les plénières de l'Assemblée nationale sont présidées par le président de l'Assemblée nationale. Qu'il soit du bureau définitif ou provisoire ou démissionnaire, non par une commission. Ces opérations de vote sont une décision comme toute autre.
Pour l'instant, la plénière a résolu qu'une rencontre entre les représentants des groupes parlementaires se tienne en vue de trouver un compromis. Il faut signaler que la constitution et le règlement intérieur sont muets quant à l'organisation de l'élection du bureau après la démission de l'ensemble du bureau permanent.
Ambroise Mamba, vous êtes journaliste et présentateur d'une émission politique sur Congo à télévision, c'est une chaîne privée qui est née à partir de Kinshasa. Comment analysez-vous cette situation à l'Assemblée nationale?
Je constate amèrement que c'est une agitation dans le camp de la majorité parlementaire lorsqu'ils considèrent que Vital Caméré ne peut pas organiser ses élections. Vital Caméré est en train d'expédier les affaires courantes et il faudra bien entendu définir ses affaires courantes. Et lorsque c'est lui qui expédie les affaires courantes, vous dites qu'il organise les élections. Où est le mal? Je comprends par cette agitation que la majorité parlementaire est en train de vendre une très mauvaise image du pouvoir en place. Parce que dans l'opinion qui gagne, c'est Vital Caméré. Parce qu'il y a un bureau démissionnaire qui doit organiser les élections. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il y a manque de conscience politique. Donc il y a manque de conscience politique au détriment des lois qui régissent le pays, au détriment des lois qui régissent l'Assemblée nationale. Donc moi j'ai conscience que c'est qu'une agitation. Ils n'ont même pas raison de pouvoir s'agiter. Ils pouvaient tout simplement accepter que Vital Caméré organise l'élection et attendre les résultats. Parce que je m'imagine que si Vital Caméré...
Mais excuse-moi, Ambroise, mais sa famille politique ne lui fait plus confiance. On ne peut pas
réaliser les élections. Mais on ne peut pas piétiner quand même certains principes au profit de la conscience politique. Il y a les principes de continuité de pouvoir, il y a les principes d'expédition d'affaires courantes. C'est en vertu de cela que Vital Caméré a organisé ces élections. Pourquoi on en vit à sa tête? Est-ce qu'il va bloquer le processus? Est-ce qu'il va organiser l'élection au détriment du candidat de l'ANP? Voilà les questions qu'il faudrait qu'on puisse se poser. Pourquoi est-ce qu'il crée tous ces problèmes? Ils peuvent se taire, bien entendu, attendre l'organisation des élections, et puis Vital Caméré va partir.
Merci Ambroise. Laurel Kankolé, est-ce qu'à ces stades, on peut parler de blocage? Est-ce qu'on peut dire que la majorité bloque l'avancement des travaux au niveau de l'Assemblée nationale?
Merci Kelly. Tu te rappelles au début, j'ai qualifié l'hémicycle. J'ai dit que c'était un folklore, un ballet aujourd'hui qui ressemble à un ballet où chaque député apporte du sien et puis finalement on ne comprend plus rien. Moi la question que je me pose, est-ce que c'est la personne de Vital Caméré qui pose problème ou qu'il s'agit simplement d'une procédure légale? Que prévoit la loi? Si la loi dispose qu'un bureau sortant ne doit plus organiser les élections, très bien, on se réfère à la loi. Mais si la loi également dit le bureau sortant, d'autant plus que le président et tous ceux qui démissionnent ne sont plus candidats à leur propre succession, il ne se pose aucun problème. Si aujourd'hui le vote c'était au niveau de l'Assemblée, au niveau de la plénière, et que la même Assemblée est constituée la majorité des députés de l'AMP. Mais où se pose le problème? Ils n'auront qu'à introduire un recours s'ils constatent que Duterte Améré a manipulé, par exemple, les résultats du vote. Moi, je pense que c'est un faux problème. C'est vraiment un faux problème. Et aujourd'hui, ma conviction est que ce n'est pas un problème de loi, mais c'est plutôt un problème d'humeur et de volonté. Mais entre la loi et la volonté, qu'est-ce qui doit se planter? Je pense que c'est la loi, d'autant plus qu'elle est générale et impersonnelle. Pourquoi est-ce qu'on doit focaliser aujourd'hui le débat sur des personnes? C'est un faux débat, ça. C'est un faux débat et il est ridicule.
Merci, Laurel. Hervé Archibalda, vous vous intervenez à partir de Mbujimayi. Comment votre chaîne de radio et télévision analyse cette situation au sein de l'Assemblée nationale?
Oui, à moins que je dise un mot par rapport à la ligne éditoriale de ma chaîne, mais je voudrais plutôt déjà ici stigmatiser le fait que au Kasaï oriental, la population était plus avait ses attentions focalisées sur la situation de l'Assemblée provinciale que l'Assemblée nationale, puisque ici aussi on a connu une situation assez similaire avec le départ du pot qui était là depuis l'installation des institutions. Et aujourd'hui, il y a un autre bureau. Mais pour revenir à ce qui se passe à Kinshasa, c'est lui, tu sais, ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, on peut se mettre d'accord sur le fait que la République démocratique du Congo est en train de balbutier sa démocratie. Et pour revenir aux propos tenus par mes deux estimés confrères qui sont avec vous au studio, je voudrais moi dire que ici, il y a un problème. Il y a l'AMP qui a peur de se foutre le doigt dans l'œil parce que on ne peut pas oublier ce qui s'est passé au Sénat. C'était plutôt chez Okitondo qui était attendu comme président du Sénat. Et malheureusement, pour une donne que nous connaissons tous, c'est plutôt Kengo Abondo qui a pris la présidence du Sénat. Donc c'est dire qu'ici, il y a cette inquiétude. Mais quand nous interrogeons maintenant les textes, comme l'a dit mon estimé confrère qui est intervenu avant moi, qui organise les élections? Je crois que le Vital Kamerhe, ainsi que son équipe, c'est une équipe qui s'occupe des affaires courantes, qui expédie des affaires courantes, comme on dit. Et à mon sens, si je ne me trompe pas, selon le règlement de cette institution, de l'Assemblée, c'est bien sûr Vital Kamerhe et toute son équipe qui vont s'occuper de l'organisation des élections afin de doter l'Assemblée nationale de nouveaux bureaux. Donc l'inquiétude de l'AMP, c'est par rapport à ça. Ils se disent, si Vital Kamerhe est là, ça présente toujours un danger. Mais alors, il faut se dire que ici, l'homme politique congolais ne met pas d'abord à l'avant-plan l'intérêt général, il voit ses intérêts, et c'est ce qui est tout à fait désolant, parce que là, on ne voit pas l'intérêt de la population. Le souhait, c'est qu'on débouche sur une situation normale qui puisse permettre au pays de continuer. Donc, en conclusion, je me dis, la RDC est encore là en train de balbutier sa démocratie.
Laurel, les députés ont 48 heures pour se concerter dans leur groupe parlementaire respectif. Est-ce que vous pensez qu'à leur retour, une solution sera trouvée pour pour l'élection du nouveau bureau?
Non, pas moi, Kili. Là, nous sommes en face de, disons, permets-moi, je vais évoquer un proverbe africain qui dit « L'arbre ne cache pas toujours la forêt ». Et ce que nous assistons aujourd'hui au Palais du Peuple, c'est exactement le contraire de cela. Les attermoiements des députés, leurs attitudes y agissent, c'est cet arbre-là qui cache la forêt. Pourquoi cette peur? Ils sont bien obligés, parce qu'on ne doit pas finalement bloquer la machine. Ou ils ne savent pas encore, ils n'ont pas pris conscience de leur fonction de député, qu'est-ce qu'un député? Si les mêmes députés aujourd'hui doivent mettre le cloque en jambe pour députer ceux qui les avaient élus, mais là franchement je ne sais plus de quelle Assemblée nationale nous sommes. Ils sont bien obligés parce que, regarde, à la clôture de la session de septembre 2008, les députés ont clôturé cette session avec beaucoup de chantiers, avec beaucoup de projets de loi qui n'ont pas été adoptés et qui doivent absolument adopter à l'ouverture de l'Assemblée depuis le 16 mars de cette année. Aujourd'hui, plusieurs jours, pratiquement la moitié d'un mois qu'on a passé comme ça, dans la distraction la plus totale, qu'est-ce qu'on attend? Ils sont bien obligés de trouver des solutions, bien entendu, ça avec ou sans caméra, mais ils doivent se référer au texte, bien entendu. Ils doivent se référer au texte, c'est bien à faire.
Moi, je ne pense pas que dans 48 heures, il y a la possibilité de trouver la solution, parce que je suis en train d'imaginer que sûrement la conférence des présidents, on va harmoniser les vues, mais la plénière reste souveraine en la matière. et on va peut-être se mettre à l'approbation de la plénière pour qu'on décide si, oui, Vital Kamerhe peut organiser l'élection ou on peut mettre en place une commission comme les députés de l'ANP l'ont demandé hier. Mais je suis en train, une fois de plus, de constater amèrement que la majorité est en train d'utiliser sa majorité, si vous permettez le barbarisme, d'une manière abusive, au détriment des lois qui régissent notamment l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais tout simplement leur demander de s'apaiser. S'apaiser pourquoi ? Parce que le confrère Herbert qui intervient à partir des Mbujimayi a dit que la démocratie est en train de balbutier. Il fallait qu'on laisse tout simplement à Vital Kamerhe donner ses élections. Le danger qu'ils voient, c'est que pour eux, Vital Kamerhe va empêcher l'élection de leur candidat. Mais moi, je ne pense pas que ça sera possible parce que ces élections sont organisées au vu aussi de tous. Il y a même des assesseurs, les témoins qui vont être appelés pour que l'on effectue tous ces processus électoraux, les comptages, ainsi de suite. Moi, je ne vois pas pourquoi on peut s'agiter aujourd'hui et présenter un très mauvais spectacle à la population. Et heureusement que la plénière d'hier n'était pas en direct. Si vous y étiez, vous alliez peut-être tomber malade de voir que les grandes personnes de ce pays, des politiciens, se comportaient de la manière dont ils se sont comportés hier. Ah, donc, c'est vraiment désagréable ce qu'ils ont présenté hier comme spectacle.
Ok.
Je te réponds par rapport à ce que dit Ambroise. Il est vrai, ce n'est pas M. Vital Kamerhe qui va choisir. Non, lui va superviser les élections. Ce n'est pas lui non plus qui va voter les critères d'éligibilité. Les critères sont légaux. Ce sont les textes qui parlent. C'est comme on dit l'auxiliaire de la loi. Il n'y a que lui qui dit voilà la lecture de tel article, on dit ceci. La lecture de tel autre article prévoit ceci. Ceux qui sont dans les critères peuvent déposer leur candidature et l'Assemblée vote. Lui ne sait que apporter son témoignage par rapport à ce que lui a vu. C'est tout. Je ne trouve pas encore qu'est-ce qui justifie la crainte de l'AMP et surtout que le même Vital Kamerhe et tous ceux qui l'ont accompagné, qui étaient présentés hier comme des petits princes, les mêmes personnes qui ont vénéré ce bureau aujourd'hui, les mêmes élus, les mêmes vénérés hier comme des délinquants ou des malfrats, des grands chemins. Ça, c'est ridicule, c'est énorme, franchement.
Oui, on voit rapidement, mais comment expliquer cette agitation au sein de la majorité présidentielle?
Non, on appelle tout simplement la fête de Vital Kamerhe. C'est la fête de Vital Kamerhe qui est.
Mais il n'est pas candidat à sa propre succession. Pourquoi ils sont agités alors?
Non, il peut avoir raison dans la mesure où Vital Kamerhe peut empêcher l'élection de leur candidat au profit d'un autre candidat de l'opposition, par exemple. Mais par rapport à ça, moi, j'aime dire tout simplement que l'avenir de l'Assemblée nationale ne sera pas radieux. Après l'élection du successeur de Vital Kamerhe. Puisque celui-là va dépendre totalement de sa famille politique, et qu'il ne saura même pas maîtriser l'opposition au sein de l'hémicycle, et à ce moment-là, il y aura un problème très sérieux par rapport au contrôle du gouvernement que l'Assemblée nationale doit faire par rapport à sa mission.
Je passe la parole d'abord à Herbert, qui intervient depuis Mbujimayi, et puis je veux vous redonner la parole. Herbert, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, Céline.
Oui, Herbert, est-ce que vous pensez que Vital Kamerhe peut empêcher l'élection du nouveau bureau?
Ben écoutez, le sujet est tellement intéressant que je me permets de dire ici, je reviens à ce que je disais, on base ici la démocratie. Vital Kamerhe est devenu pratiquement une épine dans la botte de l'AMP. C'est ce qui est dommage. Pourquoi est-ce que son nombre commence à déranger? On organise les élections. Quand on suit le texte, si... Vital Kamerhe est habilité, malgré qu'il n'ait plus la décision de démissionner, d'organiser les élections, et qu'on laisse organiser les élections, qu'on interroge les textes, comme le disait mon confrère tout à l'heure. C'est assez dommage parce que ici, l'ANP est en train de présenter à la face du monde, même à l'opinion congolaise, que l'intérêt, ce n'est pas de se regarder les acquis par rapport à la paix, ce n'est pas de se regarder l'intérêt national, mais plutôt l'affaire d'un individu qui ne plaît pas, même s'il a été bon, apprécié, applaudi hier. C'est ce qui est dommage. Donc ici, je crois que l'issue pour cette institution très importante pour la République démocratique du Congo, c'est de consulter les textes et de s'y conformer. Si Vital est habilité à organiser les élections, qu'on laisse organiser les élections, sinon l'AMP est en train de faire comprendre aux gens qu'ici, c'est un problème d'individus. Vital Kamerhe s'est devenu pratiquement une personne non grata, et on s'est dit, dans les jours à venir, ça marche pas, on pourra même lui demander de quitter le parti. Je crois que la démocratie, nous sommes en train de la balbutier, mais il y a des choses qu'il faut observer scrupuleusement, à mon avis.
Merci Herbert, Laurel Kankole. Il y a aussi ces tractations au sein de groupes parlementaires, aussi bien de la majorité que de l'opposition, pour le renouvellement justement de ce bureau de l'Assemblée nationale. Comment voyez-vous un bureau de l'Assemblée nationale avec les membres de l'opposition à l'intérieur?
C'est le jeu de la démocratie qui est. Et il y a un principe qui dit ceci: mieux vaut un juge corrompu que législateur d'une moralité ébranlée ou corruptible. Là, c'est grave. De par la mission classique d'une Assemblée nationale, nous la connaissons tous, c'est de voter des lois, de projets des lois. Et un pays qui se veut prospère, un état de droit, on ne peut jamais bâtir un tel pays sans loi. C'est ça qu'on attend aujourd'hui de l'Assemblée. Je crois aujourd'hui l'agitation par rapport à la crainte de la majorité, c'est de penser qu'en laissant à M. Vital Kamerhe la tâche d'organiser l'élection pour le renouvellement du bureau, c'est simplement effacer cette image de marque dans l'opinion publique qui risquerait de croire, ah voilà, même après sa démission, M. Vital Kamerhe est incontournable. C'est tout ce que la majorité craint. Mais en soi, c'est une crainte injustifiée. C'est une crainte injustifiée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas lui qui va choisir. Il ne sait que coordonner les activités. C'est tout. Et après l'élection, il va s'effacer. Si aujourd'hui, il y a cette méfiance au niveau de l'Assemblée nationale, qu'en reste-t-il de cette même méfiance vis-à-vis de Vital Kamerhe dans sa famille politique? On sait qu'une famille, c'est une façon de dire simplement qu'on l'efface. Et si on l'a effacé, mais là, c'est pas vraiment parler du peuple qu'on doit manifester, excusez-moi.
Oui, en bref. Oui, un petit commentaire par rapport à la question que vous avez posée à Laurel, de savoir comment on entrevoit l'avenir d'un bureau dans lequel on va trouver les membres de l'opposition.
Le conseil de la majorité.
Et moi, je pose la question de savoir comment ils vont être élus. Parce que on dit en démocratie que la majorité gouverne et l'opposition dénonce. Et qui va les élire? Parce qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe, ici, la majorité a eu des problèmes, tout simplement parce qu'il a critiqué une action gouvernementale. La traite des ténèbres entre le Rwanda et la RDC. Mais qui va élire ces membres de l'opposition?
Mais on a déjà des rumeurs qui circulent, disant qu'il y aura les membres de l'opposition qu'on va retrouver dans le gouvernement.
Moi, là, à ce moment-là, on va dire que ces membres n'appartiennent plus à la majorité, n'appartiennent plus à l'opposition, ils appartiennent à la majorité. Parce que cette majorité est mobilisée justement pour avoir un bureau qui ne va appartenir qu'à la majorité au pouvoir pour servir les intérêts de pouvoir en place. Et à ce moment-là, s'il y a des gens d'opposition au sein du bureau, les contrôles parlementaires vis-à-vis du gouvernement ne seront pas bien faits, à mon avis.
Et quel est d'après vous... Quel est d'après vous le profil du prochain président de l'Assemblée nationale?
Le profil, c'est celui que Vital Kamerhe nous a présenté. Vous savez que Vital Kamerhe a placé la barre très haut. Il a concilié les deux parties, l'opposition et le pouvoir et la majorité. Moi, je voudrais qu'il y ait au moins un président qui saura faire comme Vital Kamerhe l'a fait. Puisque jusque-là, il n'a pas commis un délit par rapport à sa gestion, à la gestion de l'Assemblée nationale, mais il a commis un délit d'opinion. À mon avis, le prochain président devra avoir le profil présenté par Vital Kamerhe. C'est lui de maîtriser, surtout l'opposition, chaque fois que l'opposition cherche à pouvoir quitter l'hémicycle, la maîtriser et la faire revenir à la raison. Je pense que ça sera très important. Mais ça ne sera pas une tâche facile, étant donné que le pouvoir en place va chercher toujours des problèmes de ce côté-là vis-à-vis de ce président, le prochain.
Laurel Kankole, et si la situation s'est retournée et qu'on retrouvait à la fin de l'élection, on retrouvait un président issu de l'opposition au sein à la tête du bureau de l'Assemblée nationale, comme au Sénat par exemple?
Ce sont les aléas du vote. Et on ne peut pas d'emblée dire, parce que les députés sont de la majorité, ils sont majoritaires, que nécessairement ils doivent voter. Non. S'ils trouvent à un candidat de l'opposition les qualités nécessaires, ce qui est important, c'est de savoir qu'on n'est pas député d'un parti politique, mais on est plutôt député de la nation. Et si on est député national, quoi de plus humble aujourd'hui? Si moi je trouve en moi qui est de l'opposition, je trouve en lui des qualités requises pour être président de l'Assemblée nationale. Pourquoi que je ne donnerai pas ma voix? C'est pas pour autant dire qu'il est de l'opposition et que l'opposition est toujours une même minorité et est négative. Non. On peut avoir une minorité qui soit qualitative, une minorité de qualité par rapport à une majorité qui soit une majorité de parti. Ça, c'est des faits.
Ça, c'est des faits.
On va clôturer avec Herbert pour passer au deuxième thème. Oui. Herbert, vous avez suivi Laurel Cancolé et Ambroise Mamba. Vous avez un dernier mot à placer par rapport à cette situation à l'Assemblée nationale.
Oui, mais justement, je veux dire que tout peut arriver. C'est ça qui justifie un peu la crainte, même si elle n'est pas légitime, de l'AMP. Tout peut arriver à l'Assemblée, comme je l'ai dit quand j'ai pris la parole pour la première fois. Tout peut arriver. Regardez, quand Vital Kamerhe a fait sujet la démarche de l'exécutif, combien de députés ont apposé leur signature? Combien de députés ont adhéré à son idée? Et quand la tension a commencé, il y a eu réaction du côté de l'AMP. Combien se sont rétractés? Donc, c'est vous dire qu'il y a un problème d'éthique dans le comportement du politicien congolais. Donc, tout peut arriver. La situation elle n'est pas maîtrisable. C'est ce qui peut être justifié, la peur de l'AMP, que je ne soutiens pas, heureusement. Donc, je me dis que Vital Kamerhe, bien évidemment, il continuera à présenter toujours un danger pour l'AMP. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il présentera un danger. Et eux, ils doivent rester doublement sur leur garde, parce que ici, c'est un problème d'éthique, et je l'ai dit, tout peut arriver à l'Assemblée au moment de l'élection.
Ambroise Mamba, en deux mois, on doit passer au deuxième thème.
Je ne suis pas d'accord avec Herbert et Laurent lorsqu'ils disent que tout peut arriver. Moi, je dis tout ne peut pas arriver. Lorsqu'on sait que la culture politique aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale est embryonnaire, ces gens-là vont voter par rapport à la consigne de leur famille politique, mais pas par rapport aux compétences du candidat. Voilà pourquoi j'ai dit tout ne peut pas arriver.
Merci Ambroise, c'est par vos propos que nous clôturons. Herbert, on passe. Herbert, s'il te plaît. Ok, juste un mot. Un mot seulement.
Justement, il ne peut pas être d'accord, mais je viens de dire que. Quand Kamerhe s'est opposé, combien de gens étaient derrière lui? Mais ils se sont rétractés une minute après. Donc, il y a un problème d'éthique sérieux qui se pose dans le comportement du politicien congolais. Voilà.
Merci Herbert, c'est par vos propos que nous clôturons cette première partie. C'est ce qui nous pousse à entamer la deuxième partie de notre émission consacrée à l'exploitation du pétrole à la frontière maritime entre la RDC et l'Angola. Le ministre congolais des hydrocarbures demande la révisitation et la redistribution de l'espace de production du pétrole dans cette région. Trois contacts sont avec moi dans ce studio. Pour en parler, il s'agit d'Herbert Tshibanda, il est journaliste et directeur de programme à la chaîne de télé et radio Kassai Horizon, KHRT, une chaîne de télévision et radio privée émettant dans les deux Kassai. Laurel Cancolé, il est journaliste indépendant, et Ambroise Mamba, il est journaliste et présentateur d'une émission politique sur Congo Web Télévision, une chaîne de télévision privée émettant à Kinshasa. Selon l'agence presse anglaise Reuters, le ministre congolais des hydrocarbures accusé la semaine dernière l'Angola d'exploiter le pétrole congolais. René Iseke Manga dément cette information. Pour lui, ses propos ont été déformés par la presse. Et pour avoir des précisions sur ses propos, Radio Okapi, à travers notre confrère Innocent Olenga, a interrogé le ministre congolais des hydrocarbures, René Iseke Manga. On l'écoute.
Ce qui a été dit, c'est qu'il y a aujourd'hui effectivement un nouveau courant. Il y a de plus en plus de pays qui exploitent en onshore, c'est-à-dire sur la mer, et cette exploitation nécessite une révisitation des carrés pétroliers. Et il est donc évident que cela va demander, n'est-ce pas, une redistribution de l'espace de production. Donc c'est dans ce contexte en fait que cette affaire a été évoquée et qui a été montée en épingle par une certaine presse.
Herbert Tshibanda, vous êtes journaliste et directeur de programme à la chaîne de télé radio Kassai Horizon. Vous intervenez à partir de Mbujimayi. À votre avis, qu'est-ce qui justifie cette demande du ministre des hydrocarbures de la RDC?
Bon, mais je crois que depuis tout ce temps, il se pose d'abord un problème de souveraineté pour la République démocratique du Congo. Comme j'ai suivi tout dernièrement sur les antennes de Radio Okapi le ministre Lambert Mende qui soutenait que la RDC ne veut pas être considérée comme un no-man land. Et bien évidemment, par rapport à nos ressources, nous savons que la RDC est toujours convoitée et ça ne restera jamais tranquille. Et je crois que dans le cadre de la coopération entre les États qui sont dans notre région, il est tout à fait normal de favoriser les dialogues avec les autres voisins. Mais je crois que cette démarche, c'est dans le souci que ça ne pose pas de conflit, soit pas de prétexte dans l'avenir pour susciter des problèmes au niveau de la sous-région.
Alors, Laurel Cancolé, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes à Kinshasa avec moi.
Comment expliquer le propos du ministre des Hydrocarbures alors qu'on sait qu'il existe une convention sur la zone d'intérêt commun entre l'Angola et la RDC?
Très bien, Kili, je crois, ça ne me surprend pas du tout. C'est que le ministre dit, comme je l'ai dit lors du premier thème, il est question ici de se référer aux instruments internationaux, aux instruments juridiques internationaux. Que prévoient les textes sur le plan de la législation internationale et sur l'exploitation dans les hautes mers? La RDC, je le déplore souvent, nous subissons trop. Et les gouvernements congolais qui se sont succédés ne jouent pas à l'offensive. C'est assez généralement, ils jouent à la défensive. C'est juste qu'on a subi la telle fait, c'est alors qu'on voit le rebondissement ou la prise de position de l'autorité. La convoitise de la RDC n'est pas un phénomène nouveau. Depuis des décennies, la tension de la République démocratique du Congo, des officiels congolais, a été plus focalisée sur l'or, sur le diamant. Est-ce qu'on a inventorié toutes les richesses qui pourraient faire l'objet de la convoitise? Si oui, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais prévu ça? Le pétrole n'est pas né hier. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais dit tel qui est situé sur la frontière entre nous et tel voisin pourrait à la longueur nous créer des problèmes? Et voilà, pour parer au plus pressé, il faudrait telle disposition légale pour que nos relations soient sauvegardées. Moi, je crois que le préalable serait celui-là. Mais lorsqu'on dit aujourd'hui, voilà, l'Angola est en train d'exploiter illégalement ou qu'il a franchi le pas sur telle partie qui revient à la RDC, comme nous l'avons dit, nous sommes encore un jeune État en guillemets qui se cherche encore, autant ouvrir le fond du dialogue.
Et Ambroise Mamba, vous êtes journaliste et présentateur d'un magazine politique sur Congo Web Télévision. Pourquoi le gouvernement congolais entreprend cette démarche maintenant seulement?
D'abord, je trouve que la demande du ministre des Hydrocarbures est fondée lorsqu'il demande qu'on puisse révisiter les carrés pétroliers. Mais il y a aussi un fait lorsqu'il demande l'information donnée par l'AFP. Sûrement, l'AFP a eu une information que l'Angola est en train d'exploiter de manière illégale le pétrole. Mais lui, demain, il dit que c'est moi qui l'a demandé la révisitation. Mais il a demandé cette révisitation par rapport à quoi? C'est parce qu'il a constaté qu'il y a un problème, justement. C'est là que moi, je dis, Herbert, au niveau des mouvements, il a dit qu'il y a un problème de souveraineté. Moi, je dis qu'il y a un problème d'intégrité du territoire. Puisqu'il n'a pas, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique, de haute politique de défense dans ce pays. Mais s'il y a ce problème, moi j'aurais voulu qu'on puisse révisiter ces contrats, ces carrés pétroliers plutôt, et puis qu'on puisse aussi regarder de ce côté-là par rapport à la défense de ce pays, l'intégrité du territoire. Il y a des militaires angolais qui sont de l'autre côté, au niveau du Bas-Congo. Qu'est-ce qu'ils y font? Qu'est-ce qu'ils cherchent là? Là, on n'a pas encore de réponse à ces questions, par exemple. Mais lorsqu'on dit qu'ils exploitent de manière illégale le pétrole, et l'AFP donne l'information, le ministre demande, il dit que je n'ai pas dit ça, mais je demande tout simplement la révisitation. C'est qu'il y a un problème quelque part. Il a demandé fondée, à mon avis.
Mais pourquoi cette démarche maintenant seulement? À votre avis?
Je pense qu'à mon avis, la démarche, peut-être parce qu'on veut mettre du sérieux de ce côté-là. Voilà pourquoi d'ailleurs, au niveau du Sénat, on discute sur une loi par rapport au permis d'exploitation pétrolière. Et je voudrais qu'on en finisse avec ce cadre juridique pour qu'effectivement on puisse mettre des garde-fous.
Puisque nous parlons pétrole, voilà un peu la situation de son exploitation en RDC dans ce tableau que nous brosse Nazaire Coco.
350 millions de barils bruts ont été produits en 30 ans, une production maigre par rapport aux réserves estimées à plus de 4 milliards de barils situés sur son sol. C'est déjà un chiffre est inférieur à la réserve réelle que doit détenir la RDC dans sa côte occidentale, estiment les analystes, puisque la frontière maritime avec l'Angola, qui se trouve des pattes et d'autres, n'a pas encore été délimitée. Les 350 millions proviennent en majorité des puits forés à terre dans la province du Bas-Congo et très peu de puits sont onshore. Très peu de pétrole exploité et donc très peu de devises tirées de cette exploitation. Moins de 10 milliards en 30 ans. Raison de cet état des choses, le pétrole se trouve à des profondeurs qui demandent des investissements importants et le pays n'a jamais consacré assez de moyens à ces sujets. Par exemple, les recherches exploratoires ne se font que par l'unique entreprise qui produit déjà Perenco-REP. Pour rentabiliser son pétrole, il faudra consacrer d'importants moyens en exploration, mais aussi organiser le secteur avec un code des hydrocarbures. Ce dernier attend son adoption par le Sénat avant sa promulgation par le président de la République. Ce code porte sur l'exploration, la production, le transport, le stockage et la commercialisation des produits pétroliers. Il consacre la libéralisation du secteur pétrolier en RDC tout en garantissant la défense des intérêts du Congo démocratique. Les anciennes conventions qui accordaient beaucoup d'avantages aux entreprises exploitantes sont remplacées par le contrat de partage des productions. Autre chose à changer, les compagnies pétrolières tirent de gros bénéfices de l'exploitation sans pour autant s'investir dans l'amélioration des conditions sociales des populations riveraines.
Herbert Tubanda, vous intervenez depuis Mbujimayi. 350 millions de barils bruts en 30 ans, c'est quand même trop faible, vous ne trouvez pas?
Bien sûr que oui, mais je voudrais quand même revenir sur les propos de mon estimé confrère de tout à l'heure, parce que le problème au Congo s'entremêle, c'est ça. La République démocratique du Congo est aujourd'hui un lion édenté. Penses-tu qu'aujourd'hui, les voisins de l'Afrique du Sud peuvent se permettre d'aller exploiter une ressource naturelle sud-africaine? C'est pratiquement impossible. Mais nos voisins se disent, mais le Congo, c'est un lion édenté, on n'a pas d'armée responsable et tout ça. C'est ça, justement, le problème. Nous avons des ressources, et même quand nous discutons, nous sommes un peu trop, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure. Donc, ça veut dire que nous, on est un peu l'enfant des cœurs. Chaque fois qu'on entend un chant, nous suivons et après nous disons, voilà maintenant nos intérêts. C'est ça l'inquiétude. Donc le véritable problème d'abord, il faudra que nous puissions reprendre notre forme dans les concerts des nations pour que nous soyons respectés. Je parle de l'armée particulièrement. Je ne veux pas sortir du sujet, il y a eu d'autres problèmes qui peuvent illustrer ce que nous sommes en train de dire. Donc le véritable problème d'abord, c'est à ce niveau, parce que nous devons aussi au départ sécuriser ce qui doit nous revenir. Bon, la faiblesse, ça c'est une évidence, c'est lié aux moyens d'exploitation et tout ça, et l'outil nécessaire pour arriver à produire suffisamment. Mais je crois que le véritable problème, c'est que nous-mêmes, nous ne représentons pas grand-chose dans la balance par rapport à la sécurisation de nos ressources naturelles.
Merci Herbert. Laurel Kankolé, à ce que je sache, il n'y a pas de délimitation maritime entre la RDC et l'Angola. Est-ce que c'est un flou entretenu par l'Angola ou par un groupe de personnes du côté congolais?
Oui, Kili, avant de répondre, je crois, le concept de révisitation aujourd'hui, il est très actuel, en RDC notamment. Qu'est-ce qu'on ne révisite pas? On demande la révisitation des contrats miniers. On demande la révisitation d'exploitation forestière. Et aujourd'hui, c'est la révisitation des carrés pétroliers. Ça veut dire simplement pendant plusieurs décennies, la RDC a vécu dans une situation de non-État. Et chacun, dans sa parcelle de pouvoir, devrait protéger ses intérêts individuels. En fait, nous sommes en train de nous ressaisir. C'est comme tu dirais, les textes ont vieilli et ne produisent pas d'effets qui profitent à la nation. Moi, je pense, quand on dit aujourd'hui que l'Angola piétine ou empiète le domaine maritime qui appartient à la RDC, ça, il faudrait, je l'ai dit tout à l'heure, revisiter les lois, que disent les textes, quelles sont les limites. La faiblesse, je n'accuse pas les officiers congolais, mais je le cite ici, sans le citer nommément, je crois, ça leur revient. Il leur appartient aujourd'hui de se détourner des intérêts individuels au profit des intérêts collectifs, des intérêts de la nation. Il suffit que les investisseurs viennent, proposent à un gouvernement, à quelqu'un qui a la partie de pouvoir dans ça, ok, il se retrouve, et là, il met la main, il met le bouchon sur ce qui pourrait revenir à la nation pour dire, voilà, je me retrouve, et j'ai mon compte, le reste ne me concerne plus. C'est ça le grand problème ici. C'est là où l'impunité, la sanction doit être appliquée.
Ambroise Mamba, vous pensez qu'en révisitant ces carrés pétroliers, cela profiterait au peuple congolais?
Bon, effectivement, puisque ça profiterait, parce que lorsqu'on révisite, on sait fixer le point sur les i, justement. Mais lorsque vous parlez, par exemple, des 35 millions de barils pendant 30 ans, je pense qu'à mon avis, il n'y a pas du sérieux du côté congolais. Il n'y a pas de sérieux. Dans l'élément que nous venons de suivre avec vous, il y a cinq activités. Lorsqu'on parle de l'exploitation, la production, le raffinage, le stockage, le transport, il n'y a pas du sérieux de ce côté-là. Le Congo et les ministres, souvent les ministres, les tutelles, les hydrocarbures, je ne veux pas parler du ministre, de laquelle ministre les hydrocarbures, mais c'est les ministres qui l'ont précédé, n'ont pas mis du sérieux de ce côté-là. Voilà pourquoi même sur le plan juridique, on ne sait même pas sécuriser l'exploitation du pétrole au niveau du pays, et au niveau même des frontières RDC, de la frontière RDC-Angola, il n'y a même pas du sérieux de ce côté-là. Je ne veux pas dire que ce côté-là, il y a un flou entretenu par l'Angola, mais j'ai dit tout simplement qu'il n'y a pas de sérieux de côté congolais pour sécuriser l'exploitation du pétrole parce que ça profite à la caisse de l'État.
Vous voulez dire un mot?
Oui, exactement. Peut-être que ce serait, en tout cas, pour ne pas être d'accord avec moi, lorsqu'il dit les ministres qui ont précédé l'actuel ministre de l'Agriculture, dire n'ont pas fait grand-chose. Moi, je dirais le contraire. Je dirais peut-être autre chose. Quoi ? L'impression dans notre pays, c'est quoi ? Lorsqu'un ministre arrive, un nouveau ministre arrive en fonction, l'impression est qu'il fait table rase de tout ce qu'a laissé son prédécesseur. Il se dit, ok, ça c'était son régime, on laisse passer, moi c'est maintenant mon temps. Il y a un musicien qui l'a dit, peut-être les gens n'ont pas compris la philosophie de ce message. Système et opération retour. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est juste la philosophie de la gestion dans ce pays. Lorsqu'un nouveau dirigeant arrive à un poste, il oublie. Il ne compulse même pas, il ne se donne peut-être pas la tâche, la peine de dire qu'est-ce que mon précédent a laissé en veilleuse et que moi je dois continuer pour l'intérêt de la nation. Non, il vit avec une nouvelle vision, c'est ça qui tue le pays. Il y a des textes.
Excuse-moi, Laurel, peut-être sa nouvelle vision, c'est pour faire améliorer les choses.
Pas toujours. Il voit ses intérêts immédiats. Celui qui est parti, il a laissé ceci, les intérêts. Les personnes immédiatement impliquées doivent lui avoir donné ceci. Et moi, mon tour, je dois également renflouer mon compte en mettant en place tel autre arsenal de mesures pour que les mêmes personnes viennent vers moi. Pas nécessairement impliquées. Moi, je crois que le problème, c'est au niveau de la continuité des services de l'État. Et si nous avons, nos dirigeants ont ce principe-là, je viens d'arriver. C'est pas moi qui ai commencé à faire cette fonction. Il y a quelqu'un qui m'a précédé et je dois jeter un regard sur la table qui était suivant sur la table et que je dois réveiller pour continuer l'action de l'État, c'est très important. Mais si on fait toujours tabou la rasa, comme on dit, nous serons toujours marche arrière et on résoudra la table d'État.
Merci Laurel. Herbert Tshibanda, est-ce que si l'Angola arrive à céder ses carrés pétroliers à la RDC, le Congo, là où la RDC saura-t-elle exploiter son pétrole ? Allô ? Ben, je crois que nous avons perdu Herbert. Est-ce que, oui, on voit que je vous pose la même question.
Oui, la même question.
Oui, vous pensez que la RDC saura exploiter son pétrole si on lui cédait ses tarifs pétroliers ?
Exploiter de quelle manière ? Oui, mais de quelle manière ? C'est ça la grande question qui se repose encore. On peut céder ce carré pétrolier à la RDC, bien entendu, mais on va l'exploiter de quelle manière ? Parce qu'il n'y a pas des lois jusque-là. Il n'y a pas des lois. Il y a une loi qui est en discussion au niveau du Sénat, comme je vous l'ai dit, par rapport au permis d'exploitation de pétrole. Mais la loi est encore en discussion. Elle a été proposée. Mais si aujourd'hui l'Angola cédait ce carré pétrolier à la RDC, on va bien sûr exploiter. Mais de telle manière, il faudra là que le ministre mette d'autres mécanismes en place pour qu'effectivement on sécurise cette exploitation pétrolière afin que ça revienne dans les caisses de l'État et ça va profiter à la population.
Et selon vous, quelle démarche la RDC peut-elle mener justement pour obtenir la redistribution de ce carré pétrolier ou de l'espace de production du pétrole ?
Bon, d'abord c'est de manière diplomatique. Hein. Il faut d'abord que la diplomatie se mette en place pour que l'on regarde ces côtés-là. Pourquoi est-ce qu'il y a ces problèmes au niveau de la frontière ? Et sans la diplomatie, je pense qu'il n'y aura pas de solution à ces côtés-là.
Oui, Laurel,
je comprends juste ce que Ambroise a dit. Le conflit naît toujours lorsqu'il y a divergence d'intérêts. L'Angola, nous le connaissons, a été parmi les pays amis, et je crois que l'Angola continue à l'être, les pays amis de la RDC. Au regard de la situation qu'il y a aujourd'hui à la frontière liquide entre l'Angola et la RDC, comme l'a dit Ambroise, il n'y a pas deux issues. L'issue, c'est le langage, c'est le dialogue. Il faudrait que l'arme de dialogue l'emporte sur le dialogue des armes. Ça, c'est très important. Je ne mérite pas qu'on y arrive. Il faudrait qu'on privilégie aujourd'hui, je préfère aujourd'hui qu'on privilégie l'axe de dialogue, qu'on prenne dialogue entre les deux États, c'est la solution. Je crois que c'est la sagesse.
Une dernière question à vous, Laurel Kankole. Le ministre Lambert Mende, quand il était ministre des Hydrocarbures, avait annoncé à l'Assemblée nationale que la RDC recevrait 600 millions de dollars chaque année de l'exploitation du pétrole avec l'Angola dans la zone d'intérêt commun. Ben, jusque-là, apparemment, on n'a jamais reçu cet argent-là. Comment expliquez-vous cela?
Je suis peut-être mal placé de dire qu'on n'a jamais reçu cet argent et d'autant plus que le ministre pourrait détenir tous les éléments d'information. Et c'est ça également qui fait la difficulté dans notre pays, c'est le musellement du circuit des formations. Les formations ne circulent pas. Dans le cadre du contrat social que privilégie Jean-Jacques Rousseau, est-ce qu'on restitue ça? Est-ce qu'on restitue à la base, par voie de la presse, les difficultés qu'il y a dans l'application de certains accords? C'est ça. Moi, aujourd'hui, je me vois très mal placé de répondre positivement ou négativement à cette question-là. Franchement, je te confesse mon ignorance.
Est-ce qu'on peut parler des négligences du côté de la RDC concernant l'exploitation du pétrole?
Négligence, oui. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une négligence. Une négligence, pas du tout une négligence, mais il y a un problème d'intérêt. Ceux qui sont là ne le font que pour leurs propres intérêts. Ils veulent remplir leur poche. Et c'est au détriment de la caisse de l'État.
Merci beaucoup, Ambroise Mamba. C'est par ici que s'achève cette tribune de la presse réalisée par Pierrot et la Mégie, assistée de Guy Maté. Merci également à Jean-Noël Mokondo qui était à la mise en onde. Merci à toute l'équipe, à l'aéro, Claude Piazza. En leur nom, Kéline Couté vous remercie et vous souhaite un bon week-end en compagnie de programmes de Radio Okapi.